une nouvelle revue de presse avec Marie-Pierre dans le froid de l'hiver. Vous nous parlez de joie et d'espérance.
Oui, Jonathan, un véritable acte de foi, comme l'écrit Antoine-Marie Isoard dans son éditorial de Famille chrétienne. Parce que souhaiter une année d'espérance à l'aube de cette année 2026 relève presque de l'audace, tant l'actualité mondiale et nationale semble la contredire. Mais alors, me direz-vous, où trouver force et joie en cette année qui commence ? Dans la relation au monde et aux autres vivants ? Peut-être, certainement, si j'en crois ces quelques mots du penseur Ernest Renan, relevés en dernière page de la Croix de ce jeudi. « La joie des autres est une grande part de la nôtre ». Même son de cloche dans l'édition de ce mardi, sous la plume de Lou Besmont de Senneville, et puis également du côté du magazine La Vie, cette fois avec le philosophe Charles Pépin. Il nous assure que la vraie joie donne de la force. Force de se confronter au réel sans se mentir, sans éviter les problèmes et sans penser à tout ce qui fâche. Pour l'humoriste Juliette Ploquin, alias Sœur Jou, Xavière de 38 ans, le rire est une voie d'accès à Dieu. Toujours dans les colonnes du magazine et le long d'un almanach de vie, almanach de survie spirituelle, elle nous invite à entrer dans la nouvelle année en laissant la place à l'espérance.
Mois des vœux, le mois de janvier est aussi pour certains celui du dry January.
Oui, une décision incroyablement efficace, selon les mots de Jean-Pierre Aubert, médecin généraliste et auteur de l'essai « Histoire d'alcool, peut-on en parler à son médecin ?» De la consommation à l'addiction, il n'y a parfois qu'un pas. Cette semaine, le magazine La Vie donne la parole à ces personnes qui boivent ou ont bu un petit verre par jour et puis qui, par peur de la dépendance, ont fini par ne plus boire du tout ou presque. Notre vin quotidien, une habitude en question, c'est en ce début d'année le grand dossier du magazine La Vie. Ainsi, à 48 ans, Anna a une vie professionnelle passionnante mais stressante. Prendre un petit verre de vin en rentrant le soir chez elle, une manière de laisser ses soucis et puis, quand elle ouvre une bonne bouteille, le ploc de l'ouverture lui provoque un effet émollient. Au départ, cette Parisienne élégante et son mari prenaient un verre, parfois deux, et puis, peu à peu, ils ont glissé vers une carafe, puis vers une bouteille entière, jusqu'à une prise de conscience. L'alcool, c'est moche. Dans le miroir, je me voyais en train de me détruire. Anna et son mari décident de ne plus boire de vin, excepté le week-end. Un premier pas vers l'abstinence ? Anna secoue la tête, elle ne sait pas, c'est un jour après l'autre. Pour d'autres, en revanche, la prise de conscience est brutale et radicale. Laure, désormais, arpente le monde à jeun. L'abstinence lui permet de s'aimer mieux, de reprendre le contrôle de sa vie, de se sentir libre. Pour elle, le vin quotidien, c'est terminé. La Croix, pour sa part, leur édition de ce mardi, nous plonge au cœur des rencontres des alcooliques anonymes. Avec la psychiatre Camille Charvet, médecin à l'hôpital Marmottan à Paris, un médecin qui explore les ressorts de la consommation de stupéfiants, on élargit la focale. Dans un entretien en lien avec le sujet de son dernier ouvrage « Les assoiffés », un entretien à retrouver dans la Croix Hebdo de cette semaine, elle nous plonge non seulement dans les mécanismes de l'addiction, mais également dans ce qu'il révèle de nos fragilités communes dans une société qui, et je la cite, pousse sans relâche au conformisme, à l'efficacité, à l'image de la performance.
Et puis, peut-on supprimer le vin de messe, Marie-Pierre ?
Question un peu provocante posée par la rédaction de La Vie, je vous l'accorde. Le vin est un don de Dieu, la bière, une invention humaine, aimait à dire Martin Luther. Une maxime que Régis Anouilh, catholique engagé et vigneron de la Loire, nourri à l'encyclique Laudato si, expérimente chaque jour en travaillant cèpe et raisin. Dans les colonnes du magazine, vous lirez le témoignage de celui pour qui le vin est symbole de l'alliance entre Dieu et les hommes.
Et puis on parle aussi de colère.
Colère des éleveurs et des agriculteurs qui ce jeudi ont réussi à entrer dans Paris. Une colère qui dure, comme nous le rappelle la Croix, cette semaine. Colère des Iraniens qui, malgré la peur de la répression, continuent à tout prix à manifester. Cette année, l'année du sang, Khamenei sera renversée, lit-on désormais sur les pancartes des manifestants. Au micro de Toba Moshiri, correspondant de la Croix à Téhéran, Rana raconte. Les gens s'unissent, ils comprennent qu'ils ont le droit d'avoir des revendications et se rendent compte qu'ils sont entendus par le gouvernement et par le reste du monde. Parsa, lui, n'en est pas à son premier mouvement. Le jeune homme, blessé par des tirs de fusil à plomb lors des dernières manifestations, retourne une nouvelle fois dans la rue, en dépit des dangers. C'est le prix à payer pour la liberté, pour que les générations futures vivent dans un Iran plus prospère et plus libre. Colère des Groenlandais après les menaces d'invasion de Donald Trump. Des Groenlandais entre colère et inquiétude, soulignait en début de semaine Olivier Thalès, notre confrère de La Croix.
Et puis enfin, colère, inquiétude, insouciance et crise des valeurs.
Et tout cela dans une Amérique ordinaire gouvernée par un président hors normes. En 2024, lors des élections présidentielles, le village de Marcellus, alors c'est une bourgade tranquille à 4 heures de New York, eh bien ce village s'est partagé à égalité entre Kamala Harris et Donald Trump. Un an après, Pascal Périche de La Croix Hebdo a demandé à 6 habitants, 3 républicains et 3 démocrates, de revisiter cette première année de présidence pour le moins surprenante. 6 citoyens ordinaires qui, loin des militants extrêmes, dressent en creux le portrait d'une Amérique confrontée à une crise de valeurs. Je vous renvoie à ce reportage éclairant, un an de présidence Trump sous le regard de l'Amérique ordinaire, à hauteur d'homme, un reportage saisissant sur une mandature stupéfiante.